Les écrivains ne m'intéressent que les gens qui ont un style. S'ils n'ont pas de style, ils ne m'intéressent pas.
Words, English words, full of echoes, memories.
Pour moi, la rencontre avec Dieu, c'est peut-être dans l'acte d'écrire. Ça veut dire une solitude qui rencontre une autre, c'est-à-dire une solitude en face d'une autre solitude. Dieu étant plus seul que soi.
Words, they've been on people's lips, in their houses, in the streets, in the fields, for so many centuries.
La vraie inspiratrice, c'est la mort, n'est-ce pas ? Si vous ne mettez pas votre peau sur la table, vous n'avez rien. Il faut payer.
Bonjour et bienvenue dans Encore Heureux. Aujourd'hui, lecture d'un livre de Jean-Philippe Toussaint, paru aux éditions de Minuit, L'urgence et la patience. Lorsque j'écris un livre, je me voudrais aérien, l'esprit au vent et la main désinvolte, mon cul. En fait, je suis très organisée. Je m'entraîne, je me prépare, je me dispose. Il y a un côté monacal dans mon attitude, spartiate, navigateur solitaire. Tout importe, la condition physique, l'alimentation, les lectures. Quand j'écris, je me couche tôt, je ne bois pas d'alcool. Pendant la journée, je marche, je fais du vélo, je nage. Le bain n'a jamais été incompatible avec l'étude, bien au contraire. Jusqu'à la réticence, quand j'entreprenais un livre, je travaillais tous les jours, tout le temps, sans reprendre haleine, sans faire de coupure, jusqu'à un an d'affilée. Je considérais l'écriture comme une machinerie lourde qui se mettait en place sur la longue durée, quelque chose de régulier, de pesant, d'entravé, quelque chose qui se refusait, qui achoppait, qui avançait péniblement, pouce à pouce. Une charrue. L'expérience douloureuse de l'écriture de la réticence, livre que je n'arrivais pas à écrire, que j'ai failli abandonner plusieurs fois, j'étais empêtrée, je ne m'en sortais pas, mais je serrais les dents, je continuais à creuser, je m'accrochais, invoquant la figure de Kafka et les idéaux les plus doloristes de l'écriture. Ce livre m'a amenée à décider de ne plus jamais écrire de cette manière. Je ne voulais plus souffrir de la sorte, il fallait changer de méthode. Dès lors, je n'ai plus travaillé que portée par un élan. Pendant des sessions d'écriture limitées dans le temps, de 15 jours à 3 mois maximum, entrecoupées de longues périodes, où je faisais autre chose, où je n'écrivais pas, où je vivais, ce qui peut également être utile. Alors que jusqu'à la réticence, je mettais environ 1 an pour écrire un livre, maintenant, pour une durée de travail effective équivalente, je mets plutôt 3 ans. Je ne travaille pas chez moi, à Bruxelles, mais en Corse ou à Ostende. À Ostende, je loue un appartement. C'est un lieu neutre. J'aime ce côté Bernard l'ermite, cet hôte qui s'installe dans une coquille qui ne lui appartient pas. Les lieux où je travaille sont toujours provisoires. Ils ont une autre affectation en mon absence. D'autres gens occupent parfois l'appartement d'Ostende. Et la grande pièce où j'écris en Corse a un autre usage lorsque je n'y suis pas. J'arrive, je prends possession des lieux, j'installe mon matériel, ordinateur, imprimante, documentation. Quand je m'en vais, j'emporte tout. Il ne reste aucune trace de mon passage. Encore heureux, portrait d'écrivain par Gaël Heureux sur Radio B. J'aime l'idée qu'on puisse définir un livre comme un rêve de Pierre. L'expression est de Baudelaire. Rêve par la liberté qu'il exige, l'inconnu, l'audace, le risque, le fantasme. De Pierre par sa consistance, ferme, solide, minérale, qui s'obtient à force de travail, le travail inlassable sur la langue, les mots, la grammaire. Quand on a trop le nez dans le manuscrit, l'œil dans le cambouis des phrases, on perd parfois de vue la ligne du livre. Or, j'aime me représenter le livre comme une ligne. J'aime cette abstraction, où la littérature rejoint la musique, et où la ligne du livre ondule, monte, descend, au gré de pures questions de rythme. Il y a parfois une contradiction entre le désir que j'ai d'écrire des phrases qui peuvent durer, qui sont proches de l'aphorisme, et la nécessité que de telles phrases n'arrêtent pas la lecture, ne la freinent même pas. Il faut que ces phrases se fondent dans le cours du roman, sans nuire à sa fluidité, qu'elles s'enfouissent dans le texte, presque camouflées, de façon qu'elles brillent sans trop attirer l'attention. Quand à la fin d'une scène paroxystique, Le livre monte très haut et atteint un sommet. Comment poursuivre la narration? Comment redescendre sans faire chuter l'attention du lecteur? La ligne du livre doit-elle toujours être crescendo, de la première à la dernière ligne? Non. On peut ménager des accélérations à l'intérieur même des parties. On peut jouer avec les ruptures de rythme. On peut faire résonner la dernière phrase d'un paragraphe. Toutes ces choses se calculent, se dosent et se mesurent. Ce sont des questions techniques, cette affaire de métier. Un livre doit apparaître comme une évidence au lecteur et non comme quelque chose de prémédité ou de construit. Mais cette évidence, l'écrivain, lui, doit la construire. Il y a toujours en jeu, je crois, dans l'écriture, ces deux notions apparemment inconciliables, l'urgence et la patience. L'urgence qui appelle l'impulsion, la fougue, la vitesse, et la patience qui requiert la lenteur, la constance et l'effort. Mais elles sont pourtant indispensables l'une et l'autre à l'écriture d'un livre, dans des proportions variables, à des dosages distincts, chaque écrivain composant sa propre alchimie. Un des deux caractères pouvant être dominant et l'autre récessif, comme les allèles qui déterminent la couleur des yeux. Il y aurait ainsi chez les écrivains les urgents et les patients, ceux chez qui c'est l'urgence qui domine, Rimbaud, Faulkner, Dostoïevski, et ceux chez qui c'est la patience qui l'emporte, Flaubert bien sûr, la patience même. D'ordinaire, l'urgence préside à l'écriture d'un livre et la patience n'est que son complément indispensable qui permet de corriger ultérieurement les premières versions du manuscrit. Chez Proust, il semblerait que la patience précède l'urgence. Proust n'écrit pas de première version d'À la recherche du temps perdu. Il se contente de vivre. Il prend tout son temps, comme s'il se relisait avant même d'avoir écrit. C'est sa vie, la patience. Et l'urgence, c'est son œuvre. Mais chaque façon personnelle de concevoir l'écriture est une névrose unique. Kafka, tous les soirs, se mettait à sa table de travail et attendait l'élan qui le porterait à écrire. Il avait cette foi en la littérature. Il ne croyait qu'en elle. Il ne voulait être qu'elle. Je ne peux ni ne veux être rien d'autre. Et il pensait tous les soirs qu'adviendrait pour lui cet idéal inaccessible. Écrire. Parfois, en effet, cela venait. Il a écrit le verdict en une nuit et la métamorphose sera écrite dans le même état de grâce. À côté de ces nuits de fièvre et d'urgence, la pratique de l'écriture est une quête aride au quotidien pour Kafka. Rien ne vient. Jamais. Jour après jour, il note dans son journal « Aujourd'hui, rien n'écrit ». J'ai tant aimé le journal de Kafka. Je l'ai lu avec passion, je m'en suis nourri, j'y revenais sans cesse. Je l'ai étudié, annoté, médité. Certaines phrases du journal sont terribles, cruelles, lucides, toutes sont émouvantes. Incertitude, sécheresse, silence, c'est en cela que tout passera.
Vous êtes sur Radio B, vous écoutez Encore Heureux.
La patience. Tout commence et tout finit toujours par la patience dans l'écriture d'un livre. En amont, il faut laisser le livre infuser en soi, c'est la phase de maturation, les premières images qui viennent, les personnages qui s'esquissent. On rassemble de la documentation, on prend des notes, on élabore mentalement un premier plan d'ensemble. Cette phase de préparation, poussée à l'extrême, le danger serait de ne jamais commencer le roman. Le syndrome de Barthes, en quelque sorte. Comme le narrateur de la télévision qui, par scrupule exagéré et souci d'exigence perfectionniste, se contente de se disposer en permanence à écrire, sans jamais céder à la paresse de s'y mettre. Car s'il est essentiel de retenir longtemps un texte, il est quand même indispensable de le lâcher un jour. En aval, dès qu'une page est terminée, on l'imprime et on la relit, on l'amende, on la rature, on trace des flèches à travers le texte. On corrige, on ajoute quelques phrases à la main, on vérifie un mot, on reformule une tournure. Puis on réimprime la page et on recommence, on recorrige, on vérifie encore. Puis on réimprime et on relit et ainsi de suite, à l'infini, traquant les fautes et débusquant les scories jusqu'à l'ultime échenillage des épreuves. J'aime ce moment à l'aube où on ouvre prudemment le manuscrit du livre en cours dans la maison encore endormie. Il y a de multiples stratégies pour essayer de découvrir le travail d'un œil neuf, de le piéger, de le surprendre à l'improviste, comme si on le découvrait pour la première fois, pour le juger d'un regard impartial. Une sieste peut faire l'affaire, une longue nuit encore mieux. J'ai même l'intuition qu'une partie de la relecture d'un livre peut se faire durant le sommeil. À l'état de veille, le livre s'est inscrit dans le cerveau avec la précision d'une position d'échec. Et la nuit, quand on dort, l'étude des variantes se poursuit comme un ordinateur qu'on laisserait tourner en permanence pour étudier l'immensité des calculs en jeu dans l'opération. Si bien qu'il m'arrive parfois d'avoir la solution au réveil, sans autre effort conscient particulier. Mais inutile de s'acharner à raturer sans fin. Seul le temps lave vraiment le regard. Titien, selon Palma le Jeune, laissait toujours reposer ses tableaux de longs mois face au mur, sans plus les regarder. Puis, quand il les reprenait, il les examinait avec une rigoureuse attention. Comme s'ils avaient été ses ennemis mortels. Ah, les chers ennemis mortels! Chers auditeurs, merci pour votre écoute. J'espère que cette lecture vous a plu. Je vous retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission. En attendant, vous pouvez réécouter, si le cœur vous en dit, les portraits d'écrivains d'Encore Heureux, d'Émile Cioran à Barbara Cartland, en passant dans le désordre par Marguerite Duras, Marguerite Yourcenar, Amélie Nothomb, Philippe Roth, Haruki Murakami, Boris Vian, Émilie Brontë, Tolkien, Moravia, Joyce Carol Oates, Pessoa, Stephen King, Georges Perec, Romain Gary, Céline, Sagan, Virginia Woolf ou Salinger. Je vous embrasse, à très bientôt sur Radio B.
Les écrivains ne m'intéressent que les gens qui ont un style. S'ils n'ont pas de style, ils ne m'intéressent pas.
Words, English words, full of echoes, memories.
Pour moi, la rencontre avec Dieu, c'est peut-être dans l'acte d'écrire. C'est-à-dire qu'une solitude qui en rencontre une autre, c'est-à-dire une solitude en face d'une autre solitude. Dieu étant plus seul que soi.
Words have been on people's lips, in their houses, in the streets, in the fields, for so many centuries.
La vraie inspiratrice, c'est la mort, n'est-ce pas? Si vous ne mettez pas votre peau sur la table, vous n'avez rien. Il faut payer.